Salut, salut. Ils se foutent de ma gueule depuis tout à l'heure parce qu'ils ont peur du « Eh bien, salut tout le monde ». Très content de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau podcast avec Manuel et Augustin. Ça va les gars?
Très bien.
Salut mon gros.
Un gros sujet aujourd'hui, comment bien se vendre? Comment bien se vendre? Comment bien se vendre?
Pourquoi tu répètes, Romain?
Par bien vendre ce putain de sujet.
Voilà,
quand même.
Vends-le bien dès le début pour que les gens accrochent et se barrent pas en mode c'est qui ce tocard, tu
vois. C'est super simple à comprendre. Que l'on cherche un job, que l'on cherche à conquérir une fille, un mec. Je vois énormément de personnes autour de moi dans mon quotidien qui ont des superbes idées. Mais des idées géniales, super bien travaillées. Ils ont bossé pendant 30 ans dessus. Ils n'ont rien dit à personne pour éviter de se la faire piquer. Mais ils savent à peine contacter les gens et ils savent pas vendre leur idée. Ce qui fait qu'une idée totalement pourrie et juste avant, bah, prend le pas sur le reste. Aujourd'hui, c'est un sujet qui pour moi est important. Beaucoup de personnes qui nous écoutent peuvent se demander soit comment bien réussir leurs prochains entretiens d'embauche, soit comment réussir à correctement contacter telle ou telle personne. C'est ce dont je voulais parler aujourd'hui dans ce podcast avec vous. Est-ce que déjà c'est un sujet qui vous parle?
Non, mais la question de comment se vendre, elle est intéressante parce que en fait, si tu regardes en détail, ça veut dire comment être dans la meilleure interaction avec les autres.
Exactement.
C'est ça le sujet. Et on utilise le mot vendre parce que tout le monde comprend. Mais la question, c'est vraiment comment être dans la meilleure interaction, comment je peux représenter qui je suis, mes idées, comment je peux essayer de montrer le meilleur de moi-même aux autres. On est dans une société où la performance est un sujet important, l'attribution est un sujet important, la question de qui a eu cette idée, etc. etc. et la vitesse à laquelle on va pour produire des idées est aussi un sujet important. En fait, quand tu regardes, ce que tu sais faire, c'est une base de conversation. Le dire aux autres est aussi important que ce que tu sais faire. En fait. Donc, ton expertise, c'est un sujet important. Ta capacité à le faire savoir est aussi un sujet majeur.
Et je pense que cette expertise-là, elle est encore mieux répercutée quand tu es sûr de ce que tu veux vendre. Et je pense qu'on va rebondir là-dessus avec notre ami Augustin, qui est un créatif de renom. T'as tout le temps plein d'idées, t'as tout le temps plein de trucs qui te passent par la tête, on est d'accord Augustin sur
bon,
les idées,
c'est à la fois un avantage,
par la tête, hein.
À la fois un avantage, je fais comme si j'avais pas entendu, c'est à la fois un avantage et à la fois un défaut, parce que quand t'as des idées tout le temps, tu sais plus où les foutre au bout d'un moment.
Et tu sais pas surtout
quand
est-ce qu'on les dit et comment les dire, et c'est ce dont je voulais parler, parce que je pense que même si ceux qui nous écoutent ont des superbes idées, le fait de tout le temps les donner à tout va sans réfléchir si c'est réellement une bonne idée et ne pas avoir travaillé le sujet en amont déjà pour soi, tu parlais de bien la vendre aux autres, mais je pense qu'avant de bien la vendre aux autres, il faut bien la vendre pour soi. Il faut être capable de se l'expliquer proprement, de comprendre quel objectif on va pouvoir mener grâce à cette idée-là ou quelle problématique on va pouvoir régler avant de vite vouloir la donner aux autres, parce qu'on a tous eu ce pote qui a tout le temps des super idées après 4 bières et qui va te dire qu'il va révolutionner le monde et le lendemain matin il se réveille pas parce que son réveil sonne pas et puis finalement il en fait pas grand chose et...
parce qu'il a la gueule de bois quoi. Mais en synthèse, les gens ont plein de comportements différents par rapport à leur capacité d'innovation. T'as les gens qui ont besoin d'en parler à tout le monde pour tester leur idée. T'as les gens qui vont la garder secrète pendant des lustres et des lustres au risque de d'ailleurs rater le momentum, le marché
coche.
En fait. On pourrait dire ça si on était vieux. Donc t'as ces gens qui vont vraiment, tu vois, avant de te dire bonjour, ils vont vouloir te faire signer un NDA. Enfin, c'est catastrophique en fait, tu vois, comme si
ça dépend du domaine. Je trouve.
Est-ce que vous aimez ce style de personne que tu ne connais pas, qui te propose un call et qui te dit, par contre, avant le call, faut que tu me signes les 10 PDF et que tu me mettes ta signature?
Bah, ouais, mais j'en connais et en général, je dis non. C'est-à-dire, je dis, moi, je signe pas de NDA avant de discuter avec quelqu'un. Si t'as envie de discuter avec moi, c'est que t'as des trucs à me dire.
Et avant de tout révéler, tu peux facilement expliquer ton idée sans forcément tout révéler.
Exactement. À toi de gérer le niveau de
risque.
D'abstraction et de risque. Voilà. Mais a priori, si tu t'adresses à moi, c'est déjà que t'as besoin de quelque chose ou t'as besoin d'un autre avis. Sinon, tu t'adresses pas à moi, en fait. C'est pas moi qui t'ai appelé, quoi, en mettant les choses en l'ordre.
Pour toi, Augustin, justement, est-ce que c'est une bonne manière d'en parler à plein de gens autour? Toi, quand t'as une super idée, est-ce que tu vas en parler à
tout le monde?
Non, mais je parlais du domaine, c'est-à-dire que si c'est une idée soit de vidéo sur YouTube, de concept, etc., je pense qu'il ne faut pas trop en parler, parce que c'est réalisable soit avec quelqu'un avec qui tu bosses, soit de la proposer à quelqu'un d'autre, mais je pense qu'il ne faut pas trop en parler dans ce milieu-là. Si on parle vraiment de la création sur YouTube, on a vécu cet exemple où on avait une idée dont t'as discuté avec un créateur, et l'idée est sortie sur sa chaîne.
T'as aussi cette course-là à l'idée, et est-ce que, au sein d'une grosse entreprise, est-ce que t'as encore plus peur de ça? Comment non. ça Non.
Non, parce que l'idée, c'est une chose, mais c'est l'exécution qui va compter. Mais on l'a déjà dit dans d'autres épisodes dont je ne me souviens plus d'ailleurs, mais c'est l'exécution qui va compter. Ok, une idée, elle peut être bonne, etc., mais c'est la vitesse à laquelle tu l'exécutes, la façon que tu as de l'exécuter, ce que tu mets de ton cœur et de ton âme dans la façon de l'exécuter. La même idée exécutée par deux ou trois personnes différentes peut ne pas du tout avoir la même saveur. Donc il faut que tu y mettes qui tu es dedans.
Mais du coup,
c'est ça qui va créer du corps à l'idée. C'est ça qui va donner envie qu'on la consomme plus que les autres. Donc ce qui va compter, c'est la façon dont tu le fais. Donc partager ton idée, finalement, bon, voilà, il y a quelques domaines dans lesquels breveter une idée est possible, dans la chimie, dans la pharmacie, dans l'industrie lourde, etc. Enfin, dans tout un tas de secteurs, ok, tu peux breveter une idée parce que il y a de la recherche fondamentale, il y a un truc derrière. Mais dans nos métiers à nous, sincèrement, c'est l'exécution qui va compter.
C'est fou parce que sans le vouloir, on parle là vachement plus d'idées que de façon de se vendre, mais parce qu'au final, n'importe quelle.
Parce qu'on est mauvais. Enfin,
mais non, mais
parce qu'on a pris un sujet au hasard, on a fait plus flou. Voilà.
N'importe quoi qu'on a envie de vendre, tout part d'une idée. On parle beaucoup d'idées, mais parce qu'au final, avant de se vendre, on veut d'abord vendre une idée. Et j'ai vraiment envie de m'intéresser aussi dans ce podcast-là à nos anecdotes. Et je sais que les gens aiment beaucoup ça. Manuel, t'as une anecdote comme ça qui te vient pour que les gens puissent un peu plus se sentir vis-à-vis de nos domaines ?
Oui, j'en ai. Moi, j'ai travaillé avec... et je continue à travailler avec pas mal de personnalités, de marques, de grandes marques que tout le monde connaît. En fait, c'est mon métier. Et... j'ai travaillé avec un grand créateur, en fait, enfin, pour pas le nommer, Karl Lagerfeld, en fait. Et quand tu es Karl Lagerfeld, ben, tu es sollicité par beaucoup de marques pour plein de projets. Et il y a un truc que je trouvais fascinant dans sa façon de procéder. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a toutes les marques de la planète qui l'appellent, en fait, que ça soit Coca-Cola, Bentley, des hôtels, enfin n'importe qui.
Et dans son cas, on peut contacter son équipe par mail, par SMS, par appel, enfin toute la journée, tout le temps, à n'importe quelle heure, quoi, en fait.
Exactement. Okay. Il avait une équipe autour de lui pour gérer ce qui s'appelait ses projets spéciaux. Et en fait, il avait une façon assez intéressante de procéder, qui était que.
Mais t'es au courant, fais pas genre.
Qui était que.
Qu'il est lourd.
Voilà. pour ses projets, son équipe disait à la marque, vous pouvez proposer un projet à Monsieur Lagerfeld, vous n'avez qu'une occasion de lui proposer un projet, donc argumentez bien votre projet, et nous n'allons pas vous donner un prix, c'est vous qui allez proposer une enveloppe pour que Monsieur Lagerfeld s'intéresse à votre projet. Donc en fait, il avait complètement inversé le processus de vente, c'est-à-dire que les marques l'appelaient en disant, voilà, on a envie de faire ça avec vous et on vous propose tant pour le faire. Et ça inverse toute la relation commerciale, en fait. Et surtout, on précisait, vous n'avez pas plusieurs occasions de changer le projet ou changer le prix. Vous allez avoir une seule occasion de proposer un projet, un prix. Il dira oui, il dira non. Et on passera au projet d'après. Pourquoi ? Parce que des projets, on en reçoit tout le temps.
Ça t'étonne, toi, Augustin ?
Non, mais ça m'étonne pas. Je trouve ça fou. C'est très, très intelligent. Mais après, tu peux te le permettre quand tu as 40 ans de carrière, que tu es reconnu par... énormément de gens sur beaucoup de projets, mais je trouve ça fou d'arriver à ce niveau-là, de retourner la situation. Je trouve ça incroyable.
Je suis tellement pas d'accord du tout pour le coup avec le fait que c'est qu'à partir d'un certain moment. Pour moi, si tu, enfin, je prends vraiment
pour
gros
état d'esprit. C'est un état d'esprit. Non, mais ça porte un nom. Ça s'appelle la dévente. C'est-à-dire que pour bien vendre, il faut dévendre. C'est-à-dire que c'est comme au judo, il faut utiliser la force de l'adversaire pour faire ta prise, en fait. Et donc, c'est exactement ce qu'il a fait dans le business. Il dit, voilà, vous voulez travailler avec moi, pour X raisons qui ne m'appartiennent pas, c'est votre truc, machin, etc. Vous me proposez un projet qui vaut le coup, et un prix qui vaut le coup, et je vous dirai oui, je vous dirai non, mais vous n'aurez pas 350 occasions. Et c'est oui ou next. Et ça, c'est le contraire de la vente. C'est totalement le contraire de la vente. C'est mettre chez... le client, le poids de la responsabilité, le poids de l'offre, le poids du value for money, etc., etc.
Et puis avec cette façon de faire, t'es sûr d'avoir des clients qui te veulent réellement.
C'est sûr. Mais quand je disais, quand t'as autant de carrière, 40 ans, etc., toi, ça peut marcher pour toi, puisque toi, tu fais des vidéos sur YouTube depuis 7 ans, t'as beaucoup de demandes, tu pourrais en refuser et faire quasiment le même processus. Je dis pas qu'il faut le faire, mais tu fais pas ça quand.
Moi, je dis qu'il faut le faire.
Mais quand il réfléchit.
Est-ce qu'on fait de la dévente en tout début de carrière? C'est pas possible. C'est la dévente. Pour moi, il faut quand même un petit peu de.
La dévente, elle appartient. Enfin, elle est directement corrélée au niveau de désirabilité.
Ok.
Voilà, si t'es en manque et que t'as pas d'argent pour vivre, c'est très compliqué d'appliquer cette méthode-là. Si t'as déjà de quoi correctement vivre, que t'as de la sécurité derrière toi financière et que t'as envie de faire prendre de la valeur à tes idées et à tes projets, c'est une méthode comme une autre. Et cette anecdote, Manuel, pour moi, elle me fait penser directement au fait que moins on veut se vendre et mieux on se vend. Au final, plus tu cherches à essayer de te vendre...
Alors moi, il y a un truc qui m'agace profondément, c'est que, notamment chez les vendeurs essayent absolument de vendre un truc à des gens qui n'en ont pas besoin.
Sur LinkedIn notamment, on en parlait.
On va en parler.
Les messages horribles qui arrivent sur LinkedIn, qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais.
Promis, à la fin de ce podcast, si vous écoutez l'entièreté de ce podcast, on reparle justement de ces mises en situation avec les emails, les notifs LinkedIn. Mais je m'en doute. Augustin, ton anecdote.
Ah, mon anecdote sur la vente de ma personne. Sur la vente de ma personne. Non, moi je me suis rendu compte que je me suis vendu sans m'en rendre compte. C'est très bizarre. Mais c'est-à-dire qu'à l'époque où j'étais...
Toujours le hashtag takeout, hein, si vous avez
des malentendus.
Voilà.
Si vous avez... N'hésitez pas à faire des extraits et les remonter, faire des gifs.
Voilà. Non, des gifs avec de l'audio. Ça roule. Ok, Augustin. Ouais, donc, ton anecdote...
Ouais, allez.
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 Non, c'est qu'à l'époque où j'étais dans un domaine plus, entre guillemets, pro, j'étais dans une société où je ne faisais pas du tout de créa. Et du coup, à l'époque, je suivais Pierre Cross, qui n'était pas très, très connu à l'époque. Et je me suis dit, putain, c'est bien ces vidéos, mais il pourrait faire des trucs mieux. Et à l'époque, je lui ai envoyé...
Combien de fois il a dit à l'époque? Vous pouvez me le dire.
À l'époque, ouais, mais j'étais jeune. Et à cette période, du coup...
Comment t'as fait, du coup? T'as eu cette idée-là?
Non,
regardé
en fait,
c'est
même pas ça. C'est qu'il postait sur Facebook ses idées de vidéos, où il demandait aux gens de proposer, etc. Et à l'époque, j'étais toujours top commentaire, parce que les gens me trouvaient drôle. Moi, j'étais là, ah bon, je suis drôle. Parce qu'à l'époque, je me rendais pas compte. Et du coup, je lui envoie une idée de vidéo, ce qu'il faisait à l'époque des vidéos...
Ah
putain, c'est horrible. Et n'hésitez pas à m'insulter quand je dis à l'époque. Et du coup, à cette période, il faisait des vidéos genre larguer sa meuf avec un PowerPoint, abandonner son chien avec un PowerPoint, etc.
Qu'as-tu fait ?
Et je lui ai dit, ce serait marrant de faire mendier dans le métro avec un PowerPoint, en expliquant pourquoi tu mendies, etc. Bon, il l'a jamais fait, peu importe. Il m'a dit, c'est la meilleure idée de vidéo que j'ai jamais eue de ma vie. Je te recontacte bientôt parce que je vais sûrement chercher quelqu'un avec qui bosser.
Mais il l'a jamais fait.
Mais il l'a jamais fait. C'est pas grave. Comme quoi, comme quoi, un truc où tu l'envoies à l'arrache, ça s'est transformé après à bosser avec lui et débarquer dans ce monde-là.
Tu l'avais contacté comment?
Alors, on se connaissait un petit peu déjà, mais on peut par Messenger.
T'as été ce qu'on appelle proactif. On va en parler juste après mon anecdote, si vous la voulez bien.
On s'en fout, mais tu vas la donner, c'est toi le
patron. Vas-y, donne ton anecdote, allez.
Lors de mes premières vidéos, j'avais vachement de marques avec qui je rêvais de travailler, qui ne me connaissaient pas du tout. Pour exemple, Xbox, parce que j'étais un gros joueur Xbox, je jouais à Call of Duty et autres. Je me suis dit, bon, j'aime bien la techno, je vais faire de toute façon des vidéos sur les nouveaux produits tech. Du coup, je vais acheter la Xbox, je vais aller à la Fnac, je l'achète, je ne demande rien à personne et je vais faire croire que ma vidéo, elle est un peu sponsorisée Xbox, comme si je travaillais déjà avec eux. Et la vidéo est sortie. Du coup, Xbox a été informé puisque je leur ai envoyé des messages en leur
disant.
T'as
fait croire que ta vidéo était sponsorisée
ouais,
par Xbox.
Exactement.
Soyons clairs.
Oui, oui, c'est ça. C'est, voilà.
Tu as menti, Romain, à ta communauté.
Non,
c'est
j'ai
mal.
Tout simplement commencé la vidéo en disant je suis très content d'avoir reçu la dernière Xbox en faisant croire que c'était genre normal, tu
oui,
vois.
Voilà, limite.
Voilà,
c'était la limite. Borderline.
Voilà, je l'envoie
tu
à
as
Xbox.
Tu as menti par omission.
C'est et ça. C'était finalement c'est quelque chose.
C'est quand même du mensonge.
Oui, c'est pas bien, Romain.
Ça s'est avéré vachement utile parce qu'au final, ils ont eu l'exemple de ce qu'ils pouvaient faire avec moi en travaillant sans que j'aie à leur dire et imaginez si on travaille ensemble. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est super néfaste quand vous avez une idée. Si vous n'arrivez déjà pas à la réaliser tout seul, sans votre entourage ou sans des gens tierces, oubliez-la. Faites autre chose, parce qu'au final, si vous avez une idée, c'est que vous êtes déjà capable de la réaliser. Il y a plein de gens autour de nous qui nous disent « Ah, j'ai cette idée-là, mais vu que j'ai pas eu l'argent, vu que j'ai pas eu ceci, vu que j'avais pas ce contact, j'ai pas pu le faire. » C'est faux. À n'importe quelle échelle, pour n'importe quel projet, on peut aujourd'hui facilement être proactif, tout seul, dans son garage, à la Steve Jobs. Et personne lui a demandé de PC à ce pauvre Steve. C'est lui qui était
tout
très
monde,
content de les faire.
Et encore moins de Mac.
Ah oui, 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 encore moins, oui.
C'est là où on en vient à la proactivité et que ça soit dans un nouveau domaine dans lequel vous souhaitez exercer ou que ça soit dans une société dans laquelle vous êtes déjà depuis 10 ans, si vous voulez y rester ou si vous voulez y aller dans cette nouvelle société ou dans ce nouveau projet, je pense qu'il va falloir parler de proactivité aussi dans ce sujet.
Et dans la proactivité, on en parlait tout à l'heure, ça permet de rebondir parce que je pense que c'est la suite des idées. Les messages LinkedIn, c'est de la mauvaise proactivité. Tu reçois des mails, je suis très content de vous ajouter à mon réseau parce qu'aujourd'hui je fais ça, 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 et t'es là, en fait je m'en fous.
C'est pas de la proactivité, c'est du démarchage ça.
Ouais, mais les gens, je pense que les gens s'imaginent que c'est ça la proactivité. Vraiment.
Toi, au sein d'Imakina, Manuel, c'est quoi de la proactivité, réellement, par un employé ?
Ça n'a rien à voir, en fait. Pour moi, tu ne dois pas vendre, tu dois essayer de résoudre des problèmes. C'est ça ton métier. Le mec qui doit représenter une marque et développer du business, autrement dit vendre, il doit essayer de résoudre des problèmes. Et moi, je n'en peux plus des gens qui m'envoient des messages sur LinkedIn, mais j'en reçois des caisses. Mais je te jure que c'est des centaines par mois, en fait, de gens qui essayent de résoudre des problèmes que je n'ai pas. En fait, c'est fascinant. Et en plus, ils m'engueulent.
En mode,
c'est ça qui est terrible. En mode, je réponds pas. En mode, en disant, mais je suis en train de rater l'occasion de ma vie, en fait. Tu vois,
parce qu'il y a un gros souci de ciblage. Il y a plein de gens qui ne savent pas cibler, en fait.
Exactement, ils essayent de résoudre des problèmes que je n'ai pas. Alors, celui dont je me souviens, c'est le mec a inventé un distributeur de gel hydroalcoolique, là, parce qu'on est en plein Covid, et il distribue du gel hydroalcoolique en quelques... millisecondes, certainement.
C'est incroyable.
Etc. Et il me dit que je rate une occasion extraordinaire, sauf que moi, j'ai fermé tous mes bureaux jusqu'en septembre l'année prochaine, en fait. Donc j'en ai rien à foutre de distribuer du gel hydroalcoolique à mes employés, puisque mes employés, ils travaillent depuis chez eux. J'en ai rien à foutre de son truc. Donc il faut qu'il arrête de m'engueuler parce que je ne réponds pas à son truc. Bon,
et voilà. Finalement, elle est là, je pense, tu vois, par rapport... Pourquoi ça a fonctionné, c'est l'histoire avec Xbox. Pourquoi ça a fonctionné ? Parce qu'au début, il y avait très peu de vidéos sur les Xbox, mis à part les productions publicitaires, télé, etc. YouTube, on en était au tout début. Et c'est comme leur avoir créé indirectement un nouveau besoin, en leur disant, bah, tenez, il y a peu de vidéos sur la Xbox, sur YouTube. Bah, regardez, moi, j'en ai fait une et il pourrait y en avoir plus.
Et on va faire un instant culture.
Ah non, mais j'ai un truc à voir, j'ai une anecdote trop bien, ce que vous racontez pas, et pourtant c'est la meilleure anecdote, c'est votre rencontre, c'est le message de Romain à Manuel sur LinkedIn. Là, il a su se vendre.
Je crois que c'était sur Messenger.
C'était sur Messenger. C'était
sur Messenger, mais c'est le
déjà,
meilleur exemple de...
Parce que je vais jamais sur Facebook, quasiment, ou presque, enfin je regarde pas, je considère...
Tu peux raconter ce que t'as envoyé, parce que c'est pour moi le meilleur exemple de dire j'arrive avec...
Grossièrement, Manuel, quand j'ai vu ton interview sur Internet et qu'on se connaissait pas, j'ai vu que tu venais de débuter ta chaîne YouTube. Je me suis dit que moi, il y a un domaine dans lequel j'excellais. Parce que pour savoir se vendre, il faut aussi être bien imbu de sa personne, de temps en temps. Je me suis dit, bah, j'ai commencé le message en disant, tiens, je vois que tu te lances sur YouTube, regarde-moi où j'en suis. Par contre, moi, je me lance dans le business, regarde-toi où t'en es, il y a peut-être quelque chose à faire. Et quand on s'est vu la première fois, très clairement, vu que le feeling est passé, ce que je t'ai dit, c'est bon, t'es une merde sur YouTube, tu sais pas vraiment faire sur YouTube, c'est parfait parce que moi, je sais très bien faire et je vais pouvoir t'apprendre ce média que tu utilises encore peu, etc., même au sein de tes équipes. Par contre, moi, de mon côté...
La preuve, j'en ai toujours rien fait. Hein.
C'est tu faux. Devrais faire la vidéo sur les pires messages LinkedIn.
De mon côté, j'étais en train d'envoyer des emails qui faisaient 50 lignes pour proposer des idées, et on a très vite vu ensemble qu'il y avait tout un point de vue business et qui pouvait aussi faire qu'on allait échanger là-dessus. Donc, trouver aussi un besoin chez la personne vers qui vous allez vous tourner, c'est forcément super important.
Je pense que la première démarche de vente, c'est d'essayer de résoudre un problème, et c'est vraiment ça. Et il faut taffer, en fait, il faut bosser. Il faut regarder ta cible, il faut regarder quel est son problème, quelles infos tu as, il faut regarder les infos de l'interlocuteur auquel tu t'adresses, quel est son parcours, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer d'accomplir. Et ça prend du temps. Mais pour revenir à l'instant culture que j'essayais de placer,
oui.
Gary Vaynerchuk a écrit un bouquin.
Gary Vee. C'est Gary Vee.
Gary
Vee, hein.
Gary Vee,
son nom est imprononçable. Voilà. Disons Gary Vee.
Fuck you, Monday.
A écrit un bouquin extraordinaire qui n'est pas tout récent maintenant, mais qui résume à peu près cette philosophie, qui s'appelle Jab, 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 Right Hook. Autrement dit, renseigne-toi, apprends avant d'essayer de vendre. Pour bien vendre, il faut bien connaître sa cible. Il faut connaître son problème. Il faut savoir ce qu'il est en train d'essayer d'atteindre comme objectif. Et alors, tu peux t'assurer que ta proposition de valeur va fonctionner pour lui. Mais il faut que le contexte fonctionne. Il faut que tu comprennes le contexte de la personne à laquelle tu t'adresses. Si tu ne comprends pas ce contexte-là, alors ta proposition de valeur n'a peut-être aucun sens.
Et pourquoi est-ce que c'est le plus important aujourd'hui ? Parce qu'on est dans un milieu et dans un monde qui devient de plus en plus compétitif, et il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais là, j'y arrive pas parce que je suis trop cher. » Et pour moi, ça n'a aucun rapport. Tu pourrais être le mais plus cher de la planète, mais il y en a plein, dans plein de domaines. Ils me disent « Ah, alors que de... enfin, dans plein d'autres domaines, tu peux être tellement cher, mais tellement bon, que les gens, enfin, que tes clients, et pour s'assurer du résultat, ils sont prêts à payer ton prix. Donc, il n'y a aucun rapport avec le prix, et je veux enlever ça de la tête des gens.
On est sur la dévente toujours, hein. On y revient là-dessus aussi. Hein.
Bah, oui et non, parce que je pense que le prix est quelque chose à voir au dernier moment. Quand tu as su vraiment draguer ton client, lui montrer ce que tu pouvais lui apporter, comment tu allais pouvoir. Quel client refuserait de payer 100 euros si grâce à toi, il va en gagner 200 ? Aucun ! Donc, quel client refuserait de payer 500 000 euros si grâce à toi, il va en gagner 1 million ? Aucun. Et c'est tout le temps pareil.
Bien sûr. Et ce que tu décris, c'est la différence entre le coût et la valeur. Et c'est vachement important de faire la différence entre le coût et la valeur. Quand tu es en train de justifier ton coût, ça veut dire que tu n'es pas sûr de ta valeur. Si tu crées de la valeur, tu peux avoir un coût élevé. Parce que tu sais que la personne en face de toi, ton client, va générer plus de valeur qu'il ne va dépenser d'argent, en fait. Et il est logique qu'il dépense de l'argent pour générer pas mal de valeur. Donc, quand on a compris la différence entre le coût et la valeur, bah, c'est beaucoup plus facile de vendre.
Pour moi, c'est toute cette partie-là qui est la plus intéressante, parce que dans plein de domaines, les gens te disent « Oui, bah, au final, je fais du pain, et puis je fais du pain, je vends ma baguette de pain tendre. » Oui, mais si tu la livres en Rolls-Royce, ta baguette de pain, qui te dit que tu n'auras pas des clients qui vont être prêts à payer plus juste pour voir une baguette de pain livrée en Rolls-Royce. Enfin, tu vois, c'est là la différence entre
J'adore
le
les
coût.
Références de Romain.
Non, mais c'est
bien.
Marrant, mais c'est là où tu peux vraiment...
Je vais voir ma baguette en Rolls-Royce.
Mais...
Non.
Je t'assure
non,
que
t'as...
Tu vois,
peux
dans
comparer ça avec une levure de fou, un truc comme ça, tu vois. Pas...
Oui et non. Si okay. Toi, ta baguette de pain, elle est moins bonne que celui d'à côté, mais qu'elle est livrée chez moi en moins de 20 minutes,
oui,
pourquoi
vrai,
je pourrais pas
vrai.
Payer plus ? T'as ajouté de la valeur.
Oui. Ah mais oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Je l'ai pas dit, mais je le pensais très fortement. Merci Manuel d'ajouter ce...
La façon de contacter maintenant, quand t'as ton idée, quand tu veux contacter une personne que tu ne connais pas. On voit l'agacement. Hein, dans les...
Alors ça marche pour le business et pour d'autres choses, on est d'accord.
Pour plein de
ça
choses.
Ça marche pour tout, ça marche pour contacter n'importe qui, ça marche quand tu veux être en interaction avec quelqu'un en fait.
Oui, parce qu'on a peu parlé de la vie personnelle finalement, mais...
Mais tout ça, ça marche dans la vie perso.
Oui, mais il faut quand même le rappeler.
Se vendre, ça part de la vie perso en fait. Être capable de défendre une idée, être capable de rallier des gens autour de toi.
Entraînez-vous au déjeuner de famille, vous ciblez un resto qui plaît à personne et vous devez y aller avec tout le monde.
Exactement. Mais
et quand tu arrives...
C'est des petits défis comme ça. Mmh. Et à partir de là, tu vas t'entraîner à rallier des gens autour de ton opinion. C'est ça, vendre. C'est rallier des gens autour de ton opinion. C'est de faire en sorte que les gens se reconnaissent dans ton opinion et se disent « Ah ben, en fait, j'y avais jamais pensé, mais ce qu'il me dit là, ce qu'il me propose a de la valeur pour moi que je n'avais pas vue. » C'est ça, un bon vendeur. C'est pas un mec qui essaye de te fourguer des produits.
Alors, si on part du pire, de la pire à la meilleure, au meilleur moyen de contacter quelqu'un, moi aujourd'hui j'en connais un qui est horrible, c'est récupérer le numéro de téléphone de la personne via une autre entité pour le contacter directement, le déranger en pleine journée pour essayer de lui vendre quelque chose.
C'est terrible.
Ça, on est d'accord que c'est le pire.
Ça, c'est compliqué. Ouais.
C'est le SAV SFR quoi. Parfois, on est en tournage et là, on m'appelle, on me dit « Ouais Romain, je suis trop content, je t'appelle. Bonjour, qui est-ce ?» Ah, en fait, on se connaît pas. Bah, c'est super. Bah, du coup, t'envoies un email et puis. Non, non, mais j'en ai pour une minute. Bah, encore mieux. Du coup, tu vas mettre que deux lignes à l'écrire ton mail. Non, mais ça va plus vite. Ça me rend. Mais tu vois, c'est ce genre de conversation qui me rend hystérique et qui me rend parfois détesté de plein de gens. Mais je suis pas mécontent d'être détesté de ces gens-là parce que je sais que de toute façon, j'aurais jamais travaillé avec eux.
Ou le pire, c'est les mecs qui t'écrivent.
Ah, les messages vocaux aussi.
Oh, ça n'arrange que celui qui l'envoie.
Non, mais comme s'ils te connaissaient, en fait. Tu vois ce que je veux dire ?
Ça va, mec ?
Les mecs, tu les connais pas du tout. Ils ont chopé ton numéro de mobile. Moi, tu vois, mon numéro de mobile est quasi public. Enfin, c'est très facile de le choper.
06.
Et donc, ils t'écrivent comme si tu leur avais parlé hier, en fait. Et toi, tu sais même pas qui c'est. Tu sais pas de quoi il s'agit, etc. etc. Et donc... ça, c'est terrible, en fait, parce que les mecs font pas d'efforts. Or, vendre, c'est beaucoup d'empathie. C'est comprendre quel est le problème de l'autre, comprendre ce qu'il essaye d'atteindre comme objectif, etc. Et c'est énormément d'empathie. Ça demande beaucoup de travail, au final.
La meilleure méthode que j'avais pu voir, c'était un abonné qui a commencé un mois avant que je voie son email à me faire un tweet en me mettant « Tiens, Romain, t'as pas vu cette solution, etc. » en me parlant d'un service. Ensuite, il me le remet dans une autre vidéo YouTube pour tester des applications mobiles. Et ensuite, il m'en parle par email en moins de quelques lignes. Et c'est tout bête, mais ce cheminement-là, il y a plein de films qui ont fait ce moyen de répétition, bah, ça a fait comme si c'était normal de le lire et de m'y intéresser. Mais ouais, c'est un travail qui a été fait en amont qui est juste fabuleux, je trouve, tu vois. Et là-dessus...
C'est une stratégie de drague, en fait.
Cette façon de contacter, donc la mauvaise, c'est de pouvoir appeler les gens et de les déranger. SMS, moi, je déteste aussi, hein, comme on l'a dit à chaque fois. SMS, c'est soit quelque chose d'important, soit des gens très perso autour de moi qui m'envoient un SMS. Aujourd'hui, le meilleur moyen qu'on a tous adopté déjà, toi, depuis de longues années, Manuel, Augustin et moi, qu'on adopte encore aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, c'est toi qui, en même temps, nous l'a aussi pas mal inculqué depuis qu'on bosse ensemble. Les emails...
C'est pas centenaire. Non.
Alors, les emails, c'est une super méthode dont on peut parler.
Mais il y a un mais, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ici, ils n'ont jamais fait. Donc, si tu veux vraiment que ce soit boosté, il faut doubler, tripler avec d'autres moyens.
Après, tu as aussi l'équipe à contacter. Moi, je déteste les gens qui me contactent en direct comme si ça allait passer plus vite qu'avec la personne qui est payée au sein de l'entreprise pour gérer ça. Tu vois, c'est un truc incroyable. Il me demande quelque chose dont c'est plus mon métier. J'ai délégué cette fonction-là à quelqu'un dans ma société. Et pourtant, ils viennent tout de même m'en parler comme si ça allait plus vite. Mais en fait, ça prend juste plus de temps, puisque je vais devoir reparler à une autre personne au lieu que toi, tu lui en parles directement. Les emails, pour moi, aujourd'hui, ça reste le meilleur moyen, et encore faut-il savoir correctement écrire et mettre en forme ses idées, puisque dans notre cerveau, c'est super clair, mais quelqu'un qui ne l'a jamais entendu...
Il faut des bullet points.
Oui, et puis se débarrasser de tous les trucs qui ne servent à rien, en fait.
Ah non, mais ça, franchement, il faut qu'on ait un podcast là-dessus, je ne sais pas si c'est intéressant, mais...
J'espère que tu vas bien.
Ouais, j'espère que tu vas bien. Ou tu te sens. En fait, c'est horrible, mais tu te sens quasiment obligé de répondre. T'es pas bien alors que tu.
Vous parlez
fous.
Des gens qui l'écrivent dans les emails, c'est
oui,
ça
c'est
pour.
Horrible,
et
c'est
vous
horrible.
Connaissez pas. Ok.
Ouais, moi ça m'arrive de l'écrire parce que le mec j'ai pas eu depuis longtemps, je me sens obligé parce que tout le monde. Et c'est très compliqué de te dire je le fais pas, j'ai aucune empathie.
N'oubliez pas que la meilleure façon de vendre un projet, c'est aussi de donner envie d'en savoir plus. Si dans un seul email, vous mettez depuis la création de votre projet jusqu'à aujourd'hui en 20 ans, bah j'ai plus rien à savoir en fait. Je sais tout, j'ai l'impression que ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, ce que j'adore, c'est découvrir des idées en moins de 5 lignes. Et encore, quand je dis 5, ça veut dire que la 6e, c'est juste le bonjour et la 7e, c'est le au revoir. Hein. Mais 5 lignes, c'est vraiment juste le corps du texte.
Mais voilà, il faut intriguer, il faut donner envie. En fait, ce que les gens valorisent le plus aujourd'hui, c'est leur temps. Et si t'envoies un email de plus de 5 à 8 lignes,
copier-coller,
déjà c'est compliqué. Ça, c'est dur aussi, hein.
Déjà c'est assez compliqué parce que les gens n'ont pas le temps. Donc il faut que tu arrives à susciter de l'intérêt, il faut que tu arrives à capter l'attention des gens en très peu de temps. Donc il faut utiliser les bons mots et il faut expliquer quelle est la valeur.
D'où l'intérêt de connaître la personne qu'on contacte.
Exactement.
Dernièrement, là, alors ça fait très longtemps, mais je tourne une vidéo pour ma chaîne un peu... C'est une grosse vidéo, mais avec un concept débile.
Le mec fait sa pub.
Peu importe. Mais je veux plein de guests dedans, donc plein de créateurs, plein de gens de YouTube. Et je dois donc les contacter, alors qu'il y en a certains que j'ai pas eu depuis des années. Il faut que je sois concis, que ça les attire et que je leur dise « je vais pas te gâcher ton temps », etc. Donc j'ai fait un truc concis. Pour l'instant, ça marche. On verra ce que ça donnera. Mais c'est très, très compliqué de te dire « le mec, j'ai pas eu depuis longtemps, il faut que j'explique en 4 lignes pourquoi j'ai besoin de lui ».
Eh bien, j'ai trop envie de résumer ça à quelque chose qui va parler à tout le monde. Faites de votre email un TikTok.
Ouais, c'est pas ouf parce qu'un TikTok...
On n'en a rien à branler de savoir que t'as appris à danser il y a 15 ans, qu'aujourd'hui
oui,
t'es trop content.
Direct.
T'arrives,
non,
ça commence.
C'est pas danser. Le TikTok, c'est que ce que les gens ne savent pas trop, parce qu'à mon avis, tout le monde n'est pas sur TikTok, c'est que ça doit démarrer tout de suite.
C'est quelque
bonjour,
chose de très rapide.
Nanana,
voilà. Il n'y a même pas de bonjour.
Il n'y a même pas de bonjour, c'est...
On teste, une chaise super qui te fait voler. Voilà, je te dis n'importe quoi, mais votre email doit ressembler à peu près à ça. On enchaîne avec la chronique d'Augustin. Ça fait longtemps que je l'ai pas lancé, ce jingle.
Ça fait très longtemps.
C'est vrai.
Ah non, c'est pas celui-là.
Non, ça, c'est les rires.
Ah, c'est celui-là.
Je ferai un remix du jingle parce que j'en ai un en rab. vraiment. Alors, aujourd'hui, petite chronique sur des petites anecdotes. Et comme d'habitude, je vais essayer de vous faire deviner la fin, ce que j'aime beaucoup, parce que ça donne des... Puis les gens vont deviner en même temps.
Sur le hashtag takeout, encore une fois.
J'ai essayé en fait de lier un peu la vente et un peu l'embauche qui était un peu dans le domaine au début. Et je vais vous poser, c'est les petites anecdotes sur des gens qui embauchent des personnes pour mieux se vendre. Attention, c'est parti. Alors en Chine, ces dernières années, il y a une société immobilière qui, dans une section de sa société, n'a embauché que des personnes non chinoises.
Ok. Et c'était quoi comme société ?
Une société immobilière.
Ben pour essayer de vendre leurs biens immobiliers à des gens qui ne sont pas chinois, comme si le fait de ne pas être chinois, ben tu parles plus facilement, enfin j'en sais rien, que comme si entre nationalités...
Il est pas loin.
Il est pas loin ?
Ouais.
Un monégasque parle mieux à un monégasque.
Ouais, l'immobilier monaco, on sait ce que c'est. Non, je sais pas.
Tu dirais pas pareil ?
Si, c'est un truc similaire. Ouais.
En fait, ils ont embauché des figurants dans les immeubles. Ils les faisaient semblant qu'ils habitaient dans les immeubles, donc des gens étrangers. Et les Chinois disaient « Oh là là, il y a beaucoup d'étrangers dans cet immeuble. C'est que c'est très hype. C'est-à-dire que c'est un truc de luxe. Donc, oh là je vais là. Acheter là. » C'était uniquement des figurants qui vivaient dans des faux appartements, en fait, pour augmenter le prix de ces
Et du coup, une fois qu'ils l'ont vendu, ils se retrouvent en Chine. C'est pas grave.
C'est
mais
ça.
Genre...
Ils se retrouvent avec que des Chinois, du coup.
Ok.
Deuxième anecdote et dernière, c'est très rapide aujourd'hui.
Oh, en temps réel.
Quoi ?
C'est incroyable !
Un message LinkedIn ?
Hello Romain, je suis Tatata, enchanté, je travaille pour Tatata et je souhaitais discuter avec toi d'une possible collaboration avec ce créateur et ce créateur. As-tu des dispos pour en parler au téléphone demain matin ?
C'est WhatsApp ?
Non, c'est SMS ! Elle a pris où mon putain de téléphone ? Pourquoi elle me fait pas un email ?
Je peux voir qui c'est ?
Non, mais c'est où ? Mais c'est incroyable ! C'est incroyable, en temps réel dans le podcast, je viens de recevoir. Et ben là-dessus, j'ai envie de faire un supprimé et je m'en fous de louper une opportunité parce que c'est pas la bonne manière... pour travailler avec quelqu'un. Enfin, je sais pas, c'est ouf qu'en plein podcast, il y ait ça qui arrive.
Je passe à la deuxième anecdote.
Vas-y.
Afin d'attirer sur le sol américain deux pirates informatiques russes, le FBI a usé d'un stratagème lié au recrutement. Comment ils ont fait ?
Pour faire quoi de ces informaticiens ?
Pour attirer ces mecs-là sur le sol américain.
Ah. Ils ont employé des hackers aussi. Ou, je sais, ils ont créé un besoin aux hackers pour qu'il y ait des gens de la Russie qui travaillent dans le projet des hackers.
Pas loin. Il est bon.
Et ils vont devoir se rencontrer. Bah, je suis pas mal vendeur quand même.
Alors, le FBI, ils ont créé une fausse start-up.
Ah ben voilà, c'est ce que j'aurais fait, c'est incroyable.
Une fausse start-up de cybersécurité. Ah, et à l'entretien d'embauche, ils leur ont dit, mec, est-ce que tu peux me faire ça ? Et là, ils leur ont dit, tu peux me faire ça ? Bon, c'est peut-être pas légal, mais fais-le. Et le mec l'a fait devant eux et ils les ont arrêtés. Les deux.
Pas mal.
Ça, c'est génial. Hein.
C'est incroyable.
Pas mal.
Incroyable. Celle-ci, elle est très, très bien.
Voilà. C'était les deux anecdotes un peu sur comment
merci
se vendre.
Merci, Augustin.
Merci.
Merci, Manuel. Merci, Augustin, d'avoir partagé ce moment en podcast. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions via le hashtag TechOut sur Twitter si ça nous donne des idées de prochains thèmes avec plaisir pour les partager à nouveau. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao, tout le monde.
Au revoir.
Bye bye.